Fragmentaire sur Radio Gameuse avec nous.
Dans l'espace de la Lune en parachute, le montage de l'exposition Ciel, Ruisseau, Racine touche tout doucement à sa fin. Les dernières œuvres trouvent peu à peu leur place et l'exposition se révèle dans son ensemble. Après la lumière, les gestes et les circulations, les créations plastiques nous entraînent cette fois vers la Terre. Les matières deviennent plus denses, plus ancrées. Les formes semblent émerger du sol comme si elles avaient toujours été là. Dans ce troisième et dernier fragment de Ciel, Ruisseau, Racine, je m'entretiens avec Clément Richem et Évelise Millet et il est question de strates, de traces, de paysages intérieurs. Une manière de fouiller, d'observer et de révéler ce qui se construit lentement sous la surface.
Je m'appelle Clément Richem, je suis artiste plasticien et également enseignant à l'ESAL Épinal. Voilà, je pratique la sculpture, la peinture, la vidéo d'animation. Voilà, je touche à un panel assez large de techniques en art.
Et dans l'exposition Ciel, Ruisseau, Racine, qu'est-ce que tu proposes ?
Alors, je vais d'une part présenter un travail qui est constitué d'une grande sculpture en céramique et d'une vidéo d'animation. C'est une pièce en deux parties qui s'appelle Tell. Un tell en archéologie, c'est une colline constituée des ruines de différentes couches de civilisation selon les époques. Et donc cette œuvre-là, c'est une œuvre sur laquelle j'ai passé des années à travailler et dans laquelle j'ai construit en céramique des bâtiments depuis le début de l'humanité. Et qu'à chaque fois je construisais, puis détruisais, puis je reconstruisais par-dessus. Et donc ça a donné une vidéo d'animation et une sculpture en céramique très grande. Voilà, ça c'est un travail que je présente. Et d'autre part, je présente une série de céramiques qui sont des amphores en céramique dessinées, peintes, enfin dire plutôt, mais peintes avec la terre. C'est vraiment que de la céramique peinte et qui raconte aussi des histoires de sous-sol, de mémoire, d'histoire en rapport au présent, des histoires de racines aussi, comme les racines des arbres qui passent dans le sol, donc le présent qui vient rencontrer le passé. Voilà, donc deux œuvres différentes, on va dire, une sculpture et vidéo d'animation et un ensemble de sculptures.
De ce que j'ai compris, cette exposition à 6, c'est un projet commun entre amis de longue date et tous ces travaux n'ont pas forcément été créés pour l'exposition. Et justement, c'est ça qui fait la force de cette exposition. Ce sont vos personnalités à vous qui se confrontent et à qui après vous donnez un nom et une barrière, si c'est bien ça. Une bannière, pardon.
Oui, c'est bien ça. C'est pas, on n'a pas choisi un thème d'exposition pour lequel on faisait des œuvres en fonction de ce thème. C'est plutôt, on avait chacun nos travaux. On a des amis proches, en fait, en vérité. Et donc, c'est plutôt qu'on a, voilà, on s'est réunis beaucoup, beaucoup. Je me suis rarement autant réuni pour une exposition. D'habitude, on fait moins que ça. Mais là, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup, souvent réunis pour discuter de nos travaux. Donc c'était pas l'idée forcément de créer quelque chose en lien avec un thème d'expo ou les autres, mais on travaille tous sur nos travaux, mais on a eu beaucoup de discussions, d'échanges qui ont fait que des choses se sont nourries les uns les autres. Et pour la plupart des artistes, on a aussi créé, il y a des œuvres anciennes qu'on expose, et on a quasiment tous les artistes ont aussi créé des œuvres spécialement pour l'expo, on va dire pas vraiment spécialement pour l'expo, mais en se disant ah, il y a cette date là, on finit, on fait un travail pour avoir une œuvre, des œuvres récentes quoi. Et donc moi dans mon cas, je crois que tous nos échanges ont un peu influencé sur ce que j'ai réalisé. Et après nos discussions, c'était aussi comment on présente ça, voilà, c'est pas fait, c'est un grand espace, on est plein d'œuvres, comment on cherche un plus ou moins une cohérence dans tout ça, quoi.
La question que j'ai posée à tes amis, qui est celle aussi que je vais te poser maintenant, il y a beaucoup l'image romantisée de l'artiste précaire et heureux. Alors qu'en est-il de la situation d'un artiste, ou du moins ta situation d'artiste en milieu rural, outre le fait que tu enseignes à l'ESAL à Épinal, si j'ai bien compris?
Oui, voilà, bah, je suis un petit peu hors de la catégorie artiste précaire, vu que je suis là déjà enseignant. Il y a beaucoup d'artistes vivant en précarité, ça c'est clair et net. C'est pas un métier facile. Quand on est diplômé d'une école d'art, il faut bien souvent s'accrocher plusieurs années avant de réussir à commencer à gagner un peu sa vie, et même de façon encore précaire. Voilà, c'est pas on a un diplôme, on sort, tout va bien. Ça peut arriver que des artistes sortent et vendent des choses et que ça se passe bien, mais c'est le plus rare, et la plupart du temps, j'ai un bon ami artiste qui dit souvent que la vie d'artiste, c'est un peu une course d'endurance. Il faut vraiment avoir fort envie pour vouloir se lancer dans cette voie. Et puis même un travail artistique met du temps à se développer après avoir fait une école d'art. Et on peut encore changer sur les 5 prochaines années après le diplôme. On peut encore changer de voie artistique plusieurs fois peut-être quand on se confronte au monde. Et donc voilà, c'est un parcours semé d'embûches, effectivement.
Donc les travaux que tu proposes ici sont un petit peu en lien avec de l'archéologie, de la recherche de la terre. Est-ce que tu as une certaine appétence pour l'histoire et l'archéologie ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je représente beaucoup de choses, de strates de terre avec des choses dans le sous-sol. Oui, ça m'a... J'ai une forte appétence pour cela. J'aime beaucoup aller chercher des fossiles, par exemple, des choses comme ça. Voilà, vraiment... à titre très en balade, quoi. Non professionnel, mais ça m'intéresse. Je pense que j'ai regardé beaucoup de documentaires sur Arte et des choses comme ça, sur l'histoire. En fait, ce qui m'intéresse dans le rapport à l'histoire, c'est comment l'histoire éclaire le présent aussi, et comment les choses de l'histoire entraînent notre vie dans le temps présent. Donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est quand même la vie dans le temps présent. Mais dans les céramiques que je présente ici à la Nuit en Parachute, c'est... Il y a une partie que je représente le sous-sol, c'est vu en coupe, où je révèle ce qu'il y a dans le sous-sol, et une autre partie qui est la partie dans le ciel, la partie du temps présent, et c'est vraiment le rapport entre passé et présent qui m'intéresse.
Dans cette exposition, tu proposes de la poterie ou de la céramique, de la peinture, et je crois qu'il y a une nouveauté parmi les arts que tu abordes. Alors lequel est-il ?
Alors là, je présente donc des céramiques qui sont de l'ordre de la peinture, mais en céramique. Et je me suis mis à écrire quelques mots dans les céramiques, en incluant le texte à l'image, quoi. J'ai ressenti le besoin d'exprimer des mots par rapport à la société, en fait. Je trouve qu'on est dans une période tellement envahissante de par la guerre, les empires qui renaissent, les massacres, tout ça, que j'ai ressenti le besoin d'écrire des mots dans mes céramiques. Et ça c'est venu progressivement. Je présente une série, il y a peut-être une trentaine de céramiques, elles ne sont pas toutes écrites, il y en a quelques-unes, j'ai commencé à écrire. Et j'ai voulu poursuivre ce travail en faisant une peinture murale in situ que j'ai peinte à la Lune en Parachute, et qui représente un sous-sol des strates de terre avec des cailloux dedans, comme si on avait une vue en coupe et des cailloux dans la terre. Et dans chacun de ces cailloux sont écrits des mots qui sont pour moi, que j'ai essayé, donc qui sont écrits au futur et qui pour moi sont porteurs d'espoir par rapport à la société, des mots contre la guerre, contre le fascisme, ça, mais rien n'est écrit contre, tout est écrit pour quelque chose qui n'est pas ça, pour la paix, donc rien n'est écrit contre, mais en creux c'est contre, mais c'est pour, c'est au futur, et c'est comme si, pour ce que je me suis raconté comme histoire, c'est comme si toutes les paroles qui seraient optimistes sur la société seraient présentes dans l'histoire, auraient déjà été espéré dans le passé, et comme si c'était un espoir permanent Voilà, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Après, des fois, des gens comprennent les choses différemment de ce que j'ai, cherché à exprimer, mais c'est ça, c'est comme des idées. Là, bon, y a le mot « paix ». Le mot « paix », comme si de tout temps, les humains avaient, des humains avaient souhaité la paix, d'autres souhaitent la guerre, souvent pour leur profit, quoi, pour prendre quelque chose à d'autres, mais comme si l'envie de paix avait toujours été présente, était enfouie dans le sol, n'attendait qu'à être déterrée. Voilà ce que j'ai imaginé comme petite histoire. Et j'ai dessiné des lettres, des lettrages, et c'était une nouveauté pour moi.
Bonjour, je suis Evelyse Millet, je suis artiste plasticienne, j'habite à Caen. Je suis diplômée de l'ESAL, du site d'Épinal, et j'ai passé mon DNSEP à l'ESAM de Caen, en Normandie. Je travaille principalement le dessin, mais depuis une dizaine d'années ou un peu plus, je développe mon travail sous la forme d'installation et j'ai eu aussi depuis quelques années de plus en plus envie de quitter l'atelier et de travailler sur le terrain. Et donc sur le terrain, j'ai développé une recherche exploratoire avec des gestes qui m'éloignent peut-être un peu du dessin, mais c'est une manière d'approcher le dessin de manière élargie, on va dire. Ça. Et donc à la Lune, dans le cadre de l'exposition Ciel Ruisseau Racine, je présente une œuvre autour des cours d'eau. Donc c'est une œuvre que je mène depuis l'été dernier le long de la Seine. C'est une œuvre qui s'intitule « La peau de l'eau », où je réalise des empreintes de la surface de l'eau. Je me concentre sur l'estuaire de la Seine. Et l'idée, donc, c'est de réaliser par des gestes très simples, assez minimaux, des empreintes sur papier, des monotypes de la surface de l'eau, en essayant de capter les résidus qui flottent à sa surface, tous ces éléments plutôt invisibles à l'œil nu qui sont charriés par le fleuve. Alors donc ça peut être évidemment des traces de végétaux en décomposition, peut-être des éléments, des contaminants, de la pollution, hein, qui pourrait être lié à la navigation. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui viennent se déposer sur le papier et qui forment des sortes de marbrures. Donc, ce sont des monotypes qui ressemblent à la fois à la terre et à l'eau. Enfin, on retrouve le courant, le flux de l'eau. Et donc ça, c'est un projet qui est en cours. Je mène en fait un projet art science avec un laboratoire de recherche qui s'appelle Morphodynamique continentale et côtière. Donc disons que c'est un laboratoire, disons, de géologie, on pourrait dire ça, et d'hydrologie. Et donc j'apprends énormément de choses sur l'estuaire en soi, sur la complexité de cet environnement-là qui est vraiment à la croisée entre la terre et la mer. C'est vraiment comme un seuil, en fait, un espace liminal où se rencontrent l'eau salée, l'eau douce et l'eau salée. Et donc, être au contact des chercheurs me permet d'aller aussi au-delà de cette première approche de la surface de l'eau, puisque j'ai accès à certains outils comme, par exemple, j'ai accès à des microscopes qui me permettent d'observer un peu plus finement ce qui se joue à la surface de cette eau. Et d'ailleurs, donc c'est à la suite de certains échanges que je me suis intéressée à la présence du phytoplancton à la surface de l'eau et qui se retrouve d'ailleurs sur mes tirages et que je peux observer au microscope. Et finalement, ce rapport à la présence du vivant m'intéresse beaucoup. Moi qui, finalement, avais commencé ce travail-là parce que je m'intéressais à l'invisibilité de la pollution de l'eau. Et finalement, échanger avec les chercheurs m'a permis de révéler une autre part invisible de l'eau qui est ce rapport à cette production primaire, enfin c'est comme ça que sont appelés les phytoplanctons, enfin les et Et donc le phytoplancton a un rôle majeur, la base de la chaîne alimentaire, ils permettent de stocker le carbone, enfin en tout cas de régénérer le cycle du carbone. Donc j'aimais bien le fait que ça temporise aussi, que ce soit pas un regard manichéen sur uniquement la part presque négative de l'usage d'un fleuve, avec donc les impacts que notre usage du fleuve peut avoir sur le milieu. Mais pour l'instant, voilà, en tout cas, j'en suis là et je développe aussi tout un travail de collecte de matière le long de l'estuaire. En fait, je parcours vraiment les 170 km d'estuaire et j'essaie de dresser comme un nuancier, pour dresser un portrait en fait de ce fleuve-là, enfin en tout cas cet estuaire, ce bout de fleuve. Donc je m'intéresse aussi à la vase, en fait, au laboratoire. C'est un laboratoire qui travaille sur le sédiment. Et donc je suis amenée à porter un regard sur ces matériaux-là, mêlés de sable, d'argile, de limon. Donc voilà, c'est un travail en cours.
Ce que tu proposes, en tout cas, les œuvres devant lesquelles je suis à la plomberie, à la Lune en parachute, c'est toute une impression de papier, on va dire, d'immarbré. Alors, tu as parlé d'impression sur papier au fil de l'eau, ou en tout cas des impressions d'eau sur le papier. Comment se passe ton procédé ?
En termes de gestes, le geste est vraiment très très simple. J'utilise un papier aquarelle assez fort, avec un grammage assez fort, de format moyen. Enfin, je peux travailler sur du format A4 ou des formats plus grands. Là, en l'occurrence, c'est des formats relativement grands. Et je pars en fait à la quête de matière, déjà d'accès au fleuve et ensuite de matière qui se déposerait à la surface. Je travaille en fonction aussi de la marée, puisque l'estuaire est soumis à la marée, donc je consulte avant toute sortie la météo et puis la table des marées pour travailler à basse mer. Le mieux pour moi, c'est de travailler quand la marée remonte au début du flot. Et ensuite, le geste, juste d'un point de vue technique, le geste est très simple. J'appose simplement quelques secondes la feuille à la surface de l'eau, et le papier, les fibres végétales du papier captent assez rapidement ce qui va flotter à la surface. Donc parfois il y a une forte concentration de matière à la surface de l'eau, et donc une forme graphique se forme. Et puis parfois c'est moins le cas, même si à l'œil nu on voit moins de choses, souvent au microscope on voit quand même à la fois des grains d'argile, des grains de quartz, de matière minérale. Et il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la présence de végétaux dont le phytoplancton fait partie. Le geste est très très simple. Ça nécessite de s'organiser un petit peu, parce que je travaille sur le terrain, et donc je suis équipée de mon grand carton à dessin, de bottes, vu que je collecte aussi de la vase. Enfin voilà, j'ai un ensemble d'outils avec moi que je peux porter simplement avec mon corps. Et puis il y a tout un rapport à la marche aussi. Ce sont des journées. Alors je circule sur des secteurs donnés, et j'essaie de travailler au fil des saisons pour voir si j'observe une différence, en fait, peut-être dans la teinte, dans la matière collectée, dans la densité de matière collectée au fil des saisons. J'ai fait un test, par exemple, en février, au moment des crues. J'ai réalisé plusieurs empreintes à cette époque, durant cette période. Et donc voilà, j'imagine que sur une échelle d'un an, j'arriverai à faire un petit bilan de ces différentes plots de surface d'eau.
Question en fil rouge de cette série d'émissions. on a beaucoup l'image fantasmée de l'artiste qui vit d'amour, d'eau fraîche et de son art. On sait pourtant que la vie d'artiste, c'est aussi beaucoup de précarité. Qu'en est-il de ton côté ?
Eh bien, je suis soumise aux mêmes règles. Hein. Effectivement, en tant qu'artiste, moi, j'ai passé plusieurs années à vivre d'assez peu de projets peu rémunérés pour un travail fourni très conséquent. Et bon, c'est toujours plus ou moins le cas. En tout cas, il y a pour tous les projets que l'on mène énormément de travail fourni, assez peu d'accompagnement financier, en tout cas, et de moins en moins, enfin, avec les coupes budgétaires en cours et à venir, il faut s'attendre. Moi j'ai fonctionné pendant une période par le biais de résidences artistiques, mais ça, c'est aussi très limitant. Et j'ai été par exemple nomade pendant un certain temps, ce qui était très bien, mais en fait ces logiques de résidence nous demandent aussi d'être mobile et disponible et nous empêchent parfois de construire quelque chose sur du long terme. Alors là, en ce moment, vu que je suis à Caen, justement, je me sens un petit peu plus ancrée, mais par exemple, à Caen, c'est de plus en plus difficile de trouver des ateliers d'artistes. Enfin, j'observe qu'il y a beaucoup d'artistes qui restent finalement dans la région et tout le monde est en recherche. Par exemple, là, pour le projet Art Science, je fournis. Ça me demande beaucoup de temps. Et j'ai reçu une subvention qui ne couvre absolument pas ma rémunération. Par exemple, c'est une bourse qui va couvrir les frais de déplacement, qui va me permettre d'acheter du matériel, de produire. Mais par exemple, je tiens juste un tableau fictif, une comptabilité fictive sur une rémunération potentielle par rapport au temps passé. Et en fait, on voit qu'en 2 mois et demi de travail, j'ai déjà écoulé... la subvention, donc après c'est jamais assez. Et là depuis 3 ans j'effectue un remplacement en tant qu'enseignante, donc effectivement ça change un petit peu la donne dès lors qu'on est salarié, mais jusqu'alors je n'avais jamais été salarié, donc j'étais forcément dépendante des appels à projets. On passe beaucoup de temps à faire des dossiers pour finalement peu de place, un peu compliqué, et puis faire des dossiers, c'est du temps passé qui ne va pas être valorisé par la suite. Donc voilà ce que je peux te dire.
Oui, c'est... Evelyse, tu es la dernière de tous les artistes que j'aurais interviewé, alors c'est à toi que revient la question de qu'est-ce que je te et à vous tous souhaite pour l'exposition et pour la suite ?
Eh bien, ce que tu peux nous souhaiter, c'est un bon vernissage, un bon moment passé avec l'équipe de la Lune, les artistes et puis les visiteurs ce soir. Je pense que ça va bien se passer.
Eh bien, Evelyse, merci. Et merci à tous tes camarades. C'est ainsi que se clôture cette série de reportages sur Ciel, Ruisseau, Racine à la Lune en parachute. Et puis je vous souhaite à tous les 6 le meilleur.
Merci.
Avec ce 3e fragment s'achève la traversée de l'exposition Ciel, Ruisseau, Racine. Une exposition portée par des artistes qui se sont rencontrés il y a 15 ans à l'Isale d'Épinal et qui se retrouvent aujourd'hui avec des trajectoires singulières. Depuis, chacun a construit son chemin. Certains vont de résidence en résidence, d'autres restent ancrés dans un territoire, certains trouvent un équilibre dans l'enseignement, d'autres consacrent tout leur temps à la création. La vie d'artiste apparaît alors comme une course de fond. Elle demande du temps, de la persévérance, une forme d'endurance patiente dans un contexte souvent marqué par l'incertitude et la précarité. Une réalité exigeante, mais aussi profondément vivante. Car derrière ces parcours différents demeure un même élan, celui de créer,
malgré les contraintes, et de continuer à faire exister des formes, des gestes et des idées. Une réalité à la fois difficile et belle, où l'amour de la création, lui, n'a pas de prix. L'exposition Ciel Ruisseau Racine est à découvrir à la Lune en parachute, à la Plomberie à Épinal, jusqu'au 4 juillet.
Fragment d'art sur Radio Gémeaux avec nous.